pourquoi on pourrait choisir le livre de Ruth. La situation culturelle, sociale des gens. D'autres raisons. Pourquoi choisir Ruth puis pas Genèse pour commencer? C'est pas Simon qui m'a dit ça, là. C'est juste ma tête qui tourne. Ruth a 4 chapitres. Genèse en a 50. Alors, si tu veux faire un projet pour commencer puis tu veux le rendre à terme, aussi bien de prendre un livre qui a pas une grosse bouchée, hein. Je regarde mon éditeur en arrière puis il dit, ça a bien de l'allure. Oui, Serge. Hey, c'est vrai, je n'ai même pas pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai. Le livre de Ruth met en évidence des dames. Avec le livre d'Esther, c'est les seuls deux livres où l'histoire tourne autour de dames. Élimélec, on l'a perdu au deuxième verset, là, dans Ruth, c'est fini. Après ça, c'est Naomi, puis c'est Ruth. Très bien. OK. Alors, qu'est-ce que ça fait pour un Africain, ça? Est-ce que ça l'implique, hein? C'est pas juste Dieu accueille des étrangers. Une grande leçon de Ruth. Une leçon de Ruth. Une grande leçon de Ruth. Dieu accueille les étrangers. Vous connaissez un petit peu l'histoire, les Moabites, ça, des bons amis des Israélites, ça? Pas trop, les Balaam là, qui a voulu bloquer les Israélites pour entrer, les Moabites n'étaient pas tellement accueillants. Là. Et Dieu a accueilli des étrangers. Il a accepté la conversion de Ruth. Qu'est-ce qu'elle disait encore? « Mon Dieu sera ton Dieu, ton peuple sera mon peuple, que l'Éternel soit dur envers moi si je ne reste pas attaché à toi. » C'est des beaux passages de mariage, cette affaire-là, de Ruth, là. « Je te suivrai jusqu'au bout. » c'est merveilleux. Ruth, qu'est-ce que je voulais dire? D'autres raisons pour Ruth. Oui, c'est ça. Alors, le déménagement, la microéconomie ouverte aux dames, c'est bon, c'est peut-être une bonne raison pourquoi on a le livre de Ruth. D'autres raisons, moi je vous en donner 3 tantôt, là, mais on est en train d'en parler. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu le livre de Ruth pour commencer? OK, puis après ça, prions Dieu, puis après ça, on va regarder des choses. Seigneur Dieu, on va ouvrir ta parole encore. Une belle histoire de l'Ancien Testament dans un temps où ça allait mal en Israël. Et Seigneur, une belle histoire fraîche, une belle histoire de ta personne, de ta grâce. Seigneur Dieu, encourage-nous par le livre de Ruth ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bien, tournez donc dans Ruth. Naomi. Naomi, elle a dit que ça l'aimait ça, ce livre-là. Là. Je sais pas pourquoi, moi. qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un peut me raconter un peu l'histoire de Élimélec et de sa femme qui s'appelle Naomi? Qu'est-ce qui arrive dans le premier chapitre? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent un petit peu de cette histoire-là? OK. Puis il s'en va à Moab. Puis qu'est-ce qui arrive à Moab? Ça va-tu mieux? Il a dit, ça va pas mieux, oui. OK. Les deux fils qui partent, ils marient des Moabites. Puis finalement, c'est pas long. En 10 ans, tout est fait. Je veux dire, qu'est-ce qui arrive aux époux? Maclon, puis... Kirion, Maclon et... celui-là, là. les deux hommes meurent. Et là, Naomi, veuve, et Élimélec aussi meurt dans ces 10 ans-là. Elle perd son mari, puis elle perd ses deux gens. Et là, elle se trouve, elle, veuve, avec deux veuves. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, puis elle se retrouve veuve avec deux veuves. Alors, une gang de veuves, là-bas. Et qu'est-ce qui arrive après? Ouais, OK. Elle dit, mais avant, elle a décidé de revenir. Pourquoi est-ce qu'elle décide de revenir? Elle a entendu que l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Il lui a donné de la nourriture. Alors là, elle dit, hey, je retourne. Puis vous autres, les Moabites, ben vous restez, allez servir votre peuple puis votre dieu, vos dieux. Et là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y en a une qui dit, OK, ça va. Puis l'autre, elle s'appelle Ruth, elle décide de s'attacher à sa belle-mère, à Naomi. Et là, elle arrive en Israël, puis ça arrive donc bien dans le bon temps. Quand tu arrives en Israël, c'est quoi la saison? C'est pas l'hiver avec la neige, c'est justement, ça tombe bien, ça tombe juste au commencement de la moisson des orges, je pense, en premier. En tout cas, il y en a deux, là, de l'orge. Et que font... Elle est pauvre, alors elle dit, appelez-moi plus. Elle dit, les gens disent, hey, Naomi est revenue. Puis elle dit, non, appelez-moi pas ma Naomi, appelez-moi Mara, parce que c'est à faute de Dieu. Hein? Ça va mal, c'est à faute de Dieu, certain. L'Éternel a été dur envers moi, je suis parti, j'étais dans l'abondance, puis là, j'ai poche vide. Pourquoi c'était parti? C'était dans l'abondance. En tout cas, c'est la faute de Dieu, son affaire. Dieu l'a rendu amer. Appelez-moi Mara. Mais là, le vent tourne. Qu'est-ce qui arrive quand le vent tourne? Je pensais que c'était ça. Qu'est-ce qui arrive à Naomi et à Ruth? OK. Là, il y a un homme qui vient dans le décor. Il s'appelle Boaz. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, Boaz? Hein? C'est un propriétaire riche de terres agricoles. Oui, Fred. Puis par hasard, il est aussi parent. Et le sais-tu? Non, je sais rien de ça, lui. Ruth, elle le sait-tu? Elle ne sait rien de ça pour commencer. Naomi, un jour, elle va le découvrir. Mais tout arrive par hasard, oui? Ouais, ouais, OK, mais ça, c'est le chapitre 4, là. On est au chapitre 2, là. OK, alors Ruth, j'aime ça. Il y a un mot que j'aime dans... Ça sent ça dans tout le... chapitre 2. J'aime... C'est ça, je lis ça, puis je... je jouis à l'intérieur. Chapitre 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva... Ah, vous dites par hasard? C'est pas ça que c'est écrit dans la mienne. Par bonheur! Quelle coïncidence! C'est plein de coïncidences, hein? C'est écrit par hasard. Au bout de la mienne, ils ont dit par bonheur. Ils se sont christianisés un petit peu. Mais c'est justement ça, là. Tu sais, la loterie a fait que ça a tombé. C'est partout comme ça. Des éléments de par... Par bonheur, elle arrive, c'est le début de la moisson. Par bonheur, elle va moissonner dans... Elle va pas moissonner, elle va glaner. Vous savez la différence, les moissonneurs, ils passent, puis ils laissent des gerbes à terre, puis les coins de champs, ils laissent ça quand c'est dans le proche des fossés. Ils ne cassent pas les jambes avec ça. Avec les pauvres, ils ramassent des restants. En arrière des moissonneurs, Ruth, elle fait ça. Elle travaille fort toute la journée, puis elle se ramasse... 3 mesures, une trentaine de livres de, 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 de gerbes avec le blé, elle bat ça en arrière dans l'air pour séparer la paille, puis là, elle ramasse le grain de blé, puis elle met ça dans une poche ou dans son manteau, comme il mentionne, puis elle s'en va chez eux, puis elle est bien contente à ramasser 30 livres de blé dans une journée. C'est une job, ça. Alors, elle était là, et ce Boaz-là, là, par hasard, est tombé dans un bon champ, puis... comment ils sont traités en général, si vous étiez étrangère, une Moabite? Y en a-tu des pauvres en Israël? Ben oui. Puis elle, c'est une étrangère qui vient comme pauvre glaner dans un champ d'un autre. Elle va être en avant certain, on va lui donner la priorité. Non, hein, elle va manger des coups. Mais comment est ce Boaz-là? Un homme très bien. Il la traite très bien, certain. Oui, Joanie? OK. Il la remarque d'abord. Par hasard, il la remarque. Hein? Pourquoi? Ben, parce qu'elle était travaillante. c'est ce que ses serviteurs y ont dit. Elle est là toute la journée. Tout le monde a pris des breaks syndicales, puis elle n'a pas pris. Hein? Elle a travaillé, puis son heure de dîner, elle l'a coupée en deux. C'est à peu près ça qu'il dit, là. Elle était travaillante. Et il a posé des questions aussi, Boaz. Il a posé des questions, puis il a dit, c'est qui cette femme-là? Puis on lui a dit qu'elle était la belle-fille de Naomi. Naomi, une pauvre veuve qui était revenue. Alors, il remarque non seulement le travail de Ruth, mais aussi son bon caractère. Il va l'appeler une femme vertueuse. Il y a juste deux endroits dans la Bible où on parle de femmes vertueuses. Où? Proverbe 31. Les dames connaissent toutes ce chapitre-là. Proverbe 31 et Ruth. Ruth, en quelque part, le chapitre 2, il va l'appeler une femme vertueuse. Il dit, oh, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Alors, par bonheur, comme ça, Naomi glane, a de l'aide, Boaz est gentil, l'accueille, l'invite à manger avec les autres moissonneurs, comme disait Joanie, il va même dire à ses serviteurs, touchez-y pas, t'sais, malmenez-la pas, puis laissez tomber un petit peu des gerbes de temps en temps qu'elle les ramasse. T'sais, donnez-y un break particulier à elle, là. Faites-lui du bien. Il est bien gentil, Boaz, pour cette personne-là. Alors, Ruth revient à la maison. Naomi, elle s'attend qu'il y ait une étrangère qui vient glaner dans un champ d'un étranger, elle va revenir avec trois poignées de blé, là, ou d'orge. Et surprise, elle revient avec une poche pleine, là, je sais pas, avec trois mesures. Là, je me souviens plus, là, où est-ce que c'est exactement, mais elle revient avec trois mesures, je pense, pour commencer, une trentaine de livres. Trois efforts, je pense, ça mentionne à quelque part. Une trentaine de livres, en tout cas, de... Hey, c'était toute une bonne journée, ça, hein? Un effort, et c'est... Quel chapitre? 2:17, et puis un effort, je regardais, c'est entre 15 et 18 kilogrammes. Dépendamment de l'humidité dans le blé, là, j'imagine, là, mais c'est un volume, une trentaine de livres certains, là. Hey, ça t'en a ramassé? Alors... Ruth commence à expliquer à Naomi comment c'est arrivé. Puis là, elle réalise, elle fait les connexions, mais elle dit, « Hein? C'était dans le champ de Boaz que t'as été? » Ben, Boaz, elle lui déclare que il est de la parenté, et parce qu'il est de la parenté, il a droit de rachat. Qu'est-ce que c'est ce droit de rachat-là? Qu'est-ce que c'est le droit de rachat? Ça, c'était un autre. oui, Naomi. Pas tout à fait. Non, c'est une autre chose. Ça, c'est ça va être une deuxième partie de ça. Mais d'abord, on parle du droit de rachat. Ben, allons en Lévitique, chapitre 25. Lévitique 25. C'est ça la première chose. Lévitique 25. Lévitique 25. Et quelqu'un peut lire 23-25 de Lévitique 25. Oui, Alain, vas-y. C'est ça. OK. Les terres ne se vendront pas à perpétuité. On ne vendra pas les terrains, mais ils vont appartenir à une famille. Puis l'héritage va rester à l'intérieur de la famille. Mais il va arriver des fois qu'il y a des famines, puis qu'il y a des gens qui vont être pauvres, destitués. Puis qu'est-ce qu'ils vont rester à la fin? Ils vont vendre leur terrain pour avoir un petit peu d'argent. C'est tout ce qui va leur rester. Et là, quelqu'un de la famille va avoir, il nous a dit, droit de racheter ça. Alors, le droit de rachat est d'abord en ce qui concerne le terrain. Mais pourquoi le terrain? Mais là, il y a un deuxième élément. Qui habite sur le terrain? Dans ce cas-ci, ben, c'était Naomi, mais pourquoi est-ce qu'on rachète le terrain? Parce qu'il a été vendu, parce qu'il appartient à une famille. Parce que c'est ça le droit de rachat, il faut qu'il soit... Alors, on veut que la famille continue. Pas juste le terrain qui continue, mais la famille qui continue. Et là, on pourrait tourner Deutéronome chapitre 25, Lévitique 25, Deutéronome 25, les versets 5 et 6. En train d'aller tout croche dans le message, mais c'est correct. Deutéronome 25 et les versets 5 et 6, qui pourrait lire ça? Deutéronome 25. Oui, Naomi. OK. Pour pas que le nom soit effacé d'Israël, on appelle ça maintenant la loi du Lévirat dans les Écritures. Alors, il y a le droit de rachat, puis ce que l'on parle ici, c'est le Lévirat. C'est une autre loi, mais ils sont pas si loin, peine l'un de l'autre. Qu'est-ce qui arrive ici? Si une personne qui devient veuve sur une portion de territoire qui appartient à la famille, qu'est-ce qui va arriver à la portion de terrain lorsque la veuve meurt? Est-ce qu'elle a un successeur? Elle n'a pas de successeur. Alors, pendant qu'elle est encore vivante et qu'elle est veuve, si elle a un frère, si son mari avait un frère qui n'a pas d'enfant, qui serait disponible, un veuf, là, non, un vieux garçon, je ne sais pas, mais même s'il était marié, je pense. Mais en général, il fallait suivre les règles. Alors, probablement, si elle avait un frère qui n'était pas marié, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que ce serait sa tâche, sa responsabilité? De la marier. Et là, le premier fils, Dieu voulant qu'ils auraient ensemble, deviendrait le propriétaire, l'héritier. Puis lui, le monsieur qui a marié la veuve de son frère, qui a déjà une terre, s'il a des enfants supplémentaires, ben là, il les prend dans sa famille à lui. Le premier-né, il appartient à la généalogie de sa femme. Je ne perds pas personne, là. C'est important pour bien comprendre Ruth après, là. Alors, Naomi a dit, « Hey, parle-moi d'une bonne affaire. » Il y a le droit de rachat. Il y a le droit de racheter notre terrain. On a l'espérance d'aller reprendre notre territoire, notre terrain. Voyez-vous? Alors, elle manigance. Ça a l'air négatif. Mais elle organise un temps où elle va pouvoir Ruth va pouvoir rencontrer de façon personnelle Boaz. Il y a plein de belles choses. Tournez encore dans Ruth, là. Je vais juste vous faire montrer des Ruth, bien entendu, vous êtes dans Ruth, vous autres, là. Regardez, parce qu'on parle de ce Boaz-là, là. Chapitre 2, verset 12. Ça, c'est Boaz qui commente le caractère de Naomi. Quelqu'un peut lire 2:12. Oui, Daniel. Qu'est-ce que Ruth a fait? Elle est venue se réfugier où? Oui, puis quel est le vocabulaire qui est employé? Tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le Dieu d'Israël, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle a adopté, puis l'Éternel est celui maintenant qui va prendre soin d'elle. Alors, Naomi, elle dit à Ruth, attends le soir, après qu'ils ont fini de battre le blé, puis que Boaz, il va être bien content, il va aller se coucher sur sa botte de foin, puis à ce moment-là, tu vas t'habiller, tu vas te parfumer, et puis tu vas aller relever la couverte d'au-dessus de ses pieds, puis tu vas te coucher à ses pieds. Technique, hein? Alors, se coucher à ses pieds. Moi, je veux juste vous montrer qu'il n'y a rien trop d'impur là-dedans, là. Mais Ruth, elle prend, Naomi, elle prend l'initiative de dire, va te présenter à Boaz comme tel, comme étant, Boaz, tu as le droit de rachat sur ma vie. Alors, Ruth va là. Elle découvre les pieds, elle se couche là, puis là, le texte nous dit que Boaz, au milieu de la nuit, il se réveille. « Qu'est-ce que c'est ça? » Une madame. Et là, elle lui dit, « Boaz? » Alors, il y a de la culture là. Et c'est parce que j'aimerais que vous voyez qu'est-ce qu'elle dit, là. J'étais en train de... chapitre 3, verset 9. Parce que souvent, les gens prennent ça, puis ils voient d'autres choses que ce qu'ils devraient voir, je pense. Chapitre 3, verset 9. Quelqu'un peut le lire encore? Oui. T'as sommaire. Oh, j'espère que ça va sommer bien pareil. Vas-y. Ah, c'est beau. Eh bien, il a dit, « Viens me prendre sous... » ta protection. On a parlé tantôt de... Quelqu'un peut lire notre nouvelle édition de Genève comme on a, parce qu'on a la signification maintenant de qu'est-ce qui est dit. Vas-y donc. Hein. Étends ton aile sur ta servante parce que tu as droit de rachat. Je connais bien des gens qui lisent ce texte-là puis qui ont des idées différentes de ce que je pense le texte veut dire. Hein? En d'autres mots, elle dit « Permets-moi de coucher avec toi parce que tu as le droit de me marier. Hein? » Les relations sexuelles avant le mariage, là, c'est ce que des gens voudraient voir dans le texte. Je suis en train de vous dire que je ne vois pas du tout ça dans le texte. Le texte, il dit, Boaz, il dit d'abord à Ruth que Dieu te bénisse parce que tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Tu es venu te réfugier sous la protection de l'Éternel. Et là, Ruth va employer le même vocabulaire envers Boaz en disant, étends ton aile, protège-moi, comme Julie l'a mentionné. Protège-moi, place-moi sous ton aile parce que tu as le droit de rachat. Et bien entendu, Boaz, il est content de ça. Il doit pas avoir trop d'enfants. On ne parle pas qu'il y a des enfants. Puis il a dit, hey, tu es vertueuse. Parce que toi, une jeune femme comme toi, belle, fine, forte, fidèle pour aider ta belle-mère, tu auras bien pu choisir des bien plus jeunes que moi. Donc, il y a 50 ans, ce gars-là, là, Boaz. Tu auras pu en choisir des jeunes, pauvres ou riches. Puis, tu sais, tu aurais eu un jeune homme qui là, tu t'enlignes vers un gars âgé, qui a pas d'enfant. Là, j'ajoute au texte, qui n'a pas d'enfant. Pas de garantie, ça. Mais, alors, il dit, reste là, puis demain matin, tu pars, puis demain, le lendemain matin, il dit, passe-moi ton manteau, puis il remplit son manteau de blé, là, le double à peu près de ce qu'il avait ce qu'elle avait la première journée. Elle retourne, et puis il dit, demain, on va régler cette affaire-là. Et le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Boaz, il va à la porte. Quelle porte? La porte du village. Les affaires sociales se passent à l'entrée du village, à la porte. Puis à la porte, il sollicite des anciens, des responsables de la ville, et il sollicite son frère. Chapitre 4. Oh, parce qu'il a dit à Ruth que lui était numéro 2 dans le droit de rachat. Qu'il y en a un frère plus proche, que lui il est plus vieux, alors il doit en avoir, je sais pas, plus vieux, plus jeune, en tout cas, je sais pas. Mais il y en a un qui est plus proche, qui aurait premièrement le droit de rachat avant Boaz. Et là, il dit, on va régler ça demain. Il va à la porte de la ville. Et puis, verset 3 à 6. Quelqu'un lit le chapitre 4, les versets 3 à 6. Vas-y, Richard. OK, on arrête là. Qu'est-ce que le frère dit? Go! Boaz vient de perdre. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'achète. Si c'est juste la première partie, la notion du droit de rachat, le frère, il a dit, moi j'achète. J'achète. Ça coûte combien? Il reste combien d'années avant l'année du jubilé? Puis j'achète. J'élargis mon territoire. Puis elle aura... elle pourra vivre avec sa fille, puis elle aura sa parcelle de terrain. J'achète. Mais là, Boaz y ajoute quelque chose. Continue. OK. OK. OK, alors qu'est-ce qu'il dit en deuxième? Tu veux le terrain, mais sache que si tu as le terrain, tu prends aussi tu prends Ruth et Naomi, et là, tu as un autre devoir. Tu as le droit de rachat, mais tu as la loi du Lévira que tu dois ajouter. Et là, le frère, il dit, ben là, je peux pas parce qu'il a peur de perdre son héritage. C'est quoi l'idée? En prenant la parcelle de Naomi, en ayant un premier enfant avec Ruth, ce premier enfant-là devient héritier, propriétaire de la parcelle qui appartenait à Naomi. Mais si c'est une jeune femme, puis qui a comme ma mère 8 enfants, ben là, qu'est-ce qui arrive avec le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8? Lui, il a peut-être 3 enfants, puis il va en avoir 5 d'une autre personne. Qu'est-ce que lui va laisser à sa famille? Il dit, moi, je vais perdre le mien, mon héritage. Voilà une jeune femme qui va probablement avoir des enfants. J'ai pas de place dans ma famille pour avoir d'autres enfants pour diviser mon héritage de plus. Pour moi, ça m'indique que Boaz, lui, riche propriétaire terrain, avait probablement pas d'enfant. Il était peut-être veuf avec un enfant ou 2 enfants, je ne sais pas, ou peut-être qu'il était tout simplement jamais marié, puis qu'il avait pas d'enfant. Lui, il pouvait se payer le luxe d'avoir 8 enfants, puis de séparer son héritage en plusieurs personnes. Alors, le frère de Boaz, il dit non, et euh, il, euh, il, quand ils disent non, ils prennent le soulier et ils disent « moi, je ne le veux pas ». Puis c'était un contrat, c'est facile, hein, un contrat. Je donne mon soulier, je ne le prends pas. Alors, Boaz prend le soulier, puis il prend le terrain, puis il prend Ruth. Puis, et là, tout le village est content. Et qu'est-ce que l'on apprend dans l'histoire? Boaz marie Ruth. Et Ruth a un enfant qui va devenir le grand-père de David. Hé, c'est une belle histoire. Maintenant, je commence le message. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit qu'il y avait trois buts pour le livre de Ruth. Je trouve que c'est bon de traduire le livre de Ruth en premier pour un pays africain comme ça, parce que c'est petit, parce que le contexte est bien. Mais il y a premièrement un but théologique dans Ruth. Le livre de Ruth présente le caractère de Dieu, présente l'activité de Dieu, il présente la grâce de Dieu. Est-ce que Naomi méritait d'être traitée de même? L'histoire commence, c'est le temps de quel, c'est pendant la période des juges. Une belle période pour Israël, ça. Une période où les enfants d'Israël se détournaient constamment. Et regardez les premières phrases de Ruth. Je veux juste vous montrer la notion de la... Naomi, elle est amère, a dit « Dieu m'en a voulu ». Je suis parti, j'étais dans l'abondance, puis là, j'ai plus rien. Je doute de ça, moi, que Dieu lui en voulait. Qu'est-ce qui est arrivé au départ? Il y avait une famine. Regardez les verbes, s'il vous plaît. Verset 1. Du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un, quel mot? Séjour. Définissez séjour pour moi. Hein? Tu vas là, tu prends des vacances, tu règles le problème, puis tu reviens. OK? Dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, les deux fils, Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Là, ils ont quitté le pays d'Israël, quitté l'héritage, quitté la famille, quitté la protection de l'Éternel, quitté la bénédiction de l'Éternel. Ils habitaient dans Bethléem, la ville du pain. Il y avait une famine temporaire, mais ils ont quitté. Et c'était juste pour séjourner. Mais finalement, ils ont fixé leur demeure. Regardez le verset 4. Verset 3. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Quel choix qu'elle aurait dû faire à ce moment-là, il me semble. Retourner, misère. Mais qu'est-ce que les fils font? Ils prennent des femmes moabites. C'est la volonté de Dieu, ça? Bip, bip, bip. Pas vraiment. Mais ils sont fixés maintenant là-bas, puis c'est dur de revenir à l'Éternel. Et puis là, une qui s'appelle Orpa, l'autre Ruth. Et finalement, un autre verbe. Et ils habitèrent là pendant 10 ans. Il explique en passant que c'était pas juste un séjour. Ils partent en séjour, ils fixent leur demeure, ils se marient, puis ils restent là pendant 10 ans. Mais l'Éternel a la grâce. Le livre de Ruth me manifeste la grâce de Dieu pour ceux qui s'éloignent. Dieu est prêt à les ramener. Et quand Naomi a dit « c'est la faute de l'Éternel », le livre s'ouvre après en lui montrant que Dieu va lui faire du bien pareil. Elle a entendu que l'Éternel avait visité son peuple, qu'il lui faisait du bien. Et Dieu, de façon providentielle, va reprendre Naomi, puis il va la relever. Il va lui redonner l'abondance. Quelle grâce de Dieu! La providence de Dieu. Je vous ai mentionné un autre thème théologique. Dieu pourvoit ses enfants. C'est la maison du pain, Bethléem. Et Dieu va pourvoir. Il est au contrôle des circonstances. La providence de Dieu. Elle arrive au début de la moisson. Aglane, elle tombe par hasard dans le champ de Boaz. Puis Boaz, par hasard, il la remarque. Puis par hasard, il en prend soin un petit peu. Puis par hasard, Ruth a dit à Naomi comment il s'appelle. Puis là, Naomi dit, hey, ben, ça tombe-tu bien un peu? C'est, il fait le droit de rachat. Puis de fil en aiguille, c'est plein de hasard, c'est plein de par-bonheur. Dans Naomi, dans le livre de Ruth. La providence de Dieu est par-dessus. La providence de Dieu seulement pour les Israélites? Non, pour les Moabites. Et c'est un bon message. C'est le à travers Ruth, David va venir Jésus, le sauveur du monde pour toutes les nations. Et ça commence avec le salut d'une Moabite. Naomi, Ruth, plutôt, elle est citée dans le Nouveau Testament, à un seul endroit, dans la généalogie de Jésus-Christ, avec d'autres étrangères, mais elle est citée. L'Évangile pour tous. Il y a un but de typologie, de type. Il faut faire attention avec les types dans l'Ancien Testament. Un type, c'est comme une image que l'on a dans l'Ancien Testament qui va nous donner une réalité dans le Nouveau Testament. Alors, il faut toujours attendre la réalité du Nouveau Testament pour nous dire c'est quoi le type. Il y a des gens qui restent dans l'Ancien Testament puis qui voient des types partout, les couleurs, les bébites, tout ça veut tout dire quelque chose en avant, puis on n'a rien dans le Nouveau Testament pour le montrer. Mais quand même, dans le livre de Ruth, on a des types. Boaz, le parent rédempteur, celui de la même famille, qui est assez riche, qui est assez puissant pour racheter le perdu. Ça ressemble-tu à quelqu'un dans le Nouveau Testament, ça? Ça ressemble. Boaz est le type de Jésus-Christ, évidemment. Jésus est le Goël, est celui qui est venu de notre famille, qui s'est incarné pour nous ressembler, qui était puissant, qui était sans péché, et qui va prendre l'épouse qui va prendre pour épouse une étrangère perdue. De ce type-là de Boaz, on peut prendre Ruth. Ruth serait alors un type de l'Église, évidemment. Étrangère, perdue par ses propres choix, et l'Éternel la prend sous son aile et il l'épouse et il suscite une postérité bénie. Les types. Je trouve aussi qu'il y a un but historique, ou c'est-à-dire généalogique. Dieu nous montre qu'il voulait assurer la pérennité des familles d'Israël, le bien-être des familles d'Israël à travers prendre soin de la terre et prendre soin des gens. Dieu, il s'occupe des deux. Il y a la providence pour la terre, comme il y a la providence pour qu'est-ce qui arrive dans nos vies. Il y a le monde dans sa main, puis il y a nous aussi dans sa main. Et Dieu voulait montrer qu'il prend soin de son peuple, même désobéissant. Et bien entendu, il nous présente la lignée royale du Messie. Ça termine le livre de Ruth en nous montrant la généalogie. Et là, David, on connaît déjà ses grands-parents. Les grands-pères de Obed, Isaïe, David. Le grand-père de David était le fils de Ruth. Et alors Dieu nous montre déjà la généalogie du roi et nous montre que le roi va être aussi Messie, va être la lignée royale et la lignée messianique parce que David va aussi donner dans sa lignée le Messie. Pourquoi Ruth? Ben, je pense que la notion que nous avons un Dieu qui est souverain puis qui est providentiel pour ceux qui se tournent vers lui, qui sont prêts à abandonner leurs idoles pour se placer sous l'aile de l'Éternel. Est-ce qu'ils sont retournés les mains vides? Dieu prend soin d'eux. La providence de Dieu. Et ça, pour quelqu'un qui n'a pas les Écritures de l'Ancien Testament puis qui n'a pas la culture religieuse de l'Ancien Testament, il y a une belle histoire de la providence de Dieu. Il y a une belle histoire de la grâce de Dieu. Est-ce que Naomi était sauvée parce qu'elle le méritait? Non. La grâce de Dieu est claire. La souveraineté de Dieu sur l'histoire, elle est claire dans Ruth. La rédemption, le rachat, ce type de Jésus-Christ et de l'Église, on le voit aussi dans le livre de Ruth. Oui. Puis Naomi, elle a perdu sa valeur personnelle. Hein? Appelez-moi Mara, appelez-moi amère, je suis devenue amère. Elle a perdu le sens de qui elle était dans le plan de Dieu. Autre commentaire? Et peut-être avant de vous coucher ce soir, vous lisez le livre de Ruth, puis c'est un beau livre qui nous parle. Oui, Julie. Oh oui, oui, elle a changé d'attitude, Naomi aussi. Elle a vu Dieu changer, puis après ça, elle a dit, et j'aurais aimé ça qu'on lise, Dieu était fidèle, même envers les morts. C'est ça qu'elle m'a dit, envers les morts puis envers les vivants. Ah, Seigneur, merci pour ce beau livre de Ruth. Merci pour cette belle histoire qui me montre ta grâce, ta providence et ton salut. Seigneur, je veux te prier pour cette traduction en téké du Sud-Ouest que Simon a terminée. Seigneur, je veux te prier que cette impression puisse avoir un impact important dans la communauté téké du Congo. Seigneur, bénis aussi Simon, Brenda, les enfants. Bénis leur ministère, Seigneur Dieu. Fais-leur du bien. Donne-leur de la joie à voir les fruits du travail qu'ils ont. Et Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes, même de voir le fruit ici du travail de Simon à l'extérieur. Bénis sa famille. Et Seigneur Dieu, donne-nous une semaine dans laquelle on va compter sur toi, sur ta providence, sur ta grâce. Et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.